Seigneur, je te remercie pour le temps de partage de ta parole que tu nous donnes, tous ces beaux versets-là que tu nous donnes pour pouvoir se fortifier dans le Seigneur, puis pouvoir apprendre à connaître ton plan que tu as préparé pour nous. Seigneur, donne-nous de mettre en pratique ce que tu nous enseignes, qu'on puisse prier pour ajouter à notre foi la vertu, la science, la tempérance, puis c'est qu'est-ce qu'on va voir ce soir. Donne-nous, Seigneur, de persévérer afin qu'il y ait beaucoup de fruits qui sortent de nos vies. Nous remettons nos vies entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On est en train de voir la petite étude qui va nous aider à apporter encore plus d'avantage de fruits dans nos vies. Le sujet de l'étude, c'est comment porter du fruit, mais en abondance dans notre vie. Puis, on est en train de voir c'est à quoi la recette que l'apôtre Pierre nous a donnée dans 2 Pierre au chapitre 1. Il nous dit au départ, là, qu'est-ce que je le répète à toutes les réunions pour qu'on se remette dans le contexte, Dieu nous a déjà tout donné ce qu'il nous fallait pour qu'on puisse en porter beaucoup. Jésus a tout accompli, puis dans ce temps qu'il est mort sur la croix, c'est ce qu'il a dit, tout est accompli. Fait que tout est accompli pour nous sauver, tout est accompli pour accomplir les écrits de l'Ancien Testament, tout est accompli pour qu'on reçoive, nous, le bagage de bénédiction qui nous est donné dans le Saint-Esprit. Ça permet qu'on puisse le recevoir, puis vivre avec, puis le saisir toutes ses promesses, puis qu'on puisse avancer, puis qu'on porte beaucoup de fruits. C'est ça qui est le but de son enseignement. Il est en train de montrer 7 points capitaux. C'est pas des péchés capitaux, c'est des points capitaux pour qu'on porte beaucoup de fruits. On en a vu déjà 3. Il fallait ajouter à notre foi, parce que la foi, c'est notre base pour rentrer dans la vie chrétienne, c'est par la foi. On croit ce que Jésus a accompli en mourant sur la croix. On l'a accepté comme notre sauveur personnel. Par notre foi, on a accepté le pardon de nos péchés que Jésus nous offre. Par notre foi, on s'est engagé à suivre Jésus parce qu'on croit que Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Fait qu'on le suit. Ça, la foi, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le point de départ. Mais là, dans ce verset-là, ça nous dit, dans 2 Pierre 1:5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Fait que là, on part avec la foi. Mais il y a des choses qu'il faut rajouter dans notre foi si on veut porter beaucoup de fruits. Pour porter beaucoup plus de fruits, Dieu veut nous apprendre à devenir patients. On a vu déjà qu'il fallait ajouter à notre foi la vertu. La vertu, c'était une attitude à vouloir toujours faire le bien. À notre vertu, il fallait ajouter la science. La science, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Fait que si tu veux bien faire, puis tu connais la volonté de Dieu, mais là, tu peux savoir quoi mettre en pratique pour bien faire. Après ça, on a vu l'autre point qu'il fallait rajouter, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Fallait être capable de se contrôler. Dieu nous délivre de beaucoup de choses quand on vient à lui, notre vie, elle change. Puis il y a des points qu'on avait de la misère, que c'était des péchés qu'on faisait, puis il nous en délivre. On n'a plus ces désirs-là. C'est arrêté, c'est sorti de notre vie. Puis il y a des points dans notre caractère qui changent, tout en commençant dans notre vie chrétienne. Mais il y a d'autres affaires qui n'ont pas encore changé automatiquement. Puis ça va prendre un peu plus de temps avant que ça change. Mais Dieu veut nous apprendre à se maîtriser. On a vu là-dedans qu'il fallait apprendre à maîtriser notre langue, qui est le membre le plus dur à contrôler.
Le plus petit
des membres, mais c'est alimenté par la géhenne, par l'étang de feu. C'est la langue qui sort toutes sortes de méchancetés. Mais ça, faut apprendre à maîtriser notre langue. Faut apprendre à maîtriser les élans de notre corps, quand notre corps veut partir sa brosse. Mais il faut être capable de se contrôler, parce que les tentations, les occasions, disons, de péché, il y en a à la tonne. Des occasions d'aller coucher avec une autre femme, un exemple, ça va arriver dans la vie d'un être humain d'aller coucher avec un autre gars ou avec une femme autre que notre épouse, ça. Des occasions, on en aura à la tonne, mais il faut apprendre à se maîtriser pour marcher dans la sainteté.
Ça arrive pas. Je te dis, ça va arriver, mais faut pas que ça arrive.
La tentation va arriver. C'est rare qu'une personne n'a jamais eu de tentation d'aller coucher avec une autre personne. L'important, c'est que même si ton corps aurait un désir d'y aller, il faut que tu sois capable de dire non. Tu te maîtrises, c'est de la tempérance. Ce soir, on voit un autre des points que Dieu veut qu'on ait dans notre vie pour porter du fruit, c'est de la patience. Vous allez comprendre que le sens du mot patience n'est pas juste dans le sens que, tu sais, quand on se dit qu'on est patient, on est capable d'attendre sur un coin de rue que quelqu'un vienne nous chercher. Il a dit qu'il passerait à 7 heures, puis on est capable d'attendre. Puis il est rendu 7 heures et quart, il n'est pas encore arrivé, puis on est capable d'attendre sans réagir. Nous autres, quand on pense à patience, on pense tout de suite à être capable d'attendre. C'est une façon de le voir, mais on voit que le mot patience dans le Nouveau Testament, le mot grec, il est un peu plus large que ça. Louis II, là, il a traduit le mot patience, là, ce mot grec-là, par persévérance, patience, fermeté, constance. Dans le Nouveau Testament, ça nous parle d'un homme qui ne dévie pas de son but. Quand tu dis que tu es patient, on pense aux patience d'attendre, mais le fait de dire que tu t'en vas vers un chemin puis tu dévies pas de ton but, c'est aussi ça le sens du mot patience, qu'on change pas notre but, on reste loyal à la foi et à la piété, malgré les plus grandes épreuves et les souffrances, malgré tout ce qui peut t'arriver, tu continues à aller de l'avant, à suivre le Seigneur. Le mot patience veut aussi dire persévérance. Être capable de toffer, être capable d'endurer, être capable de continuer d'aller de l'avant malgré l'opposition. Le mot patience, il va jusqu'à là, ce mot patience-là. Il y a des synonymes comme patiemment ou constamment. Un homme patient, il est constant dans son attente. Ça, c'est dans la... Qu'est-ce qu'on connaissait déjà, qu'être patient, c'est être capable d'attendre. Ça a cette portée-là aussi. Une patience qui endure, qui est ferme, puis persévérante. Parce que de l'endurance, c'est d'être patient. Imaginez un exemple, t'endures tes enfants qui te tapent ses nerfs. Ils courent, ils crient, puis là, ils sont... Peut-être les petits cousins et cousines de tes enfants sont là. Tout le monde joue, puis ça court, puis ça crie, puis là, le son monte, puis là, t'endures. Mais ça, c'est de la patience aussi. L'endurance, la capacité d'endurer, ça fait partie de quelque chose qu'il faut que ça soit dans notre vie. Je te dis pas qu'on l'a automatiquement, mais il faut apprendre à travailler, à demander au Seigneur qu'il nous mette ça en nous pour être capable d'endurer. Notre femme qui chiale souvent. Peut-être c'est le mari qui chiale souvent. Non, mais ça... Être patient, c'est d'endurer, de pas réagir tout de suite quand on entend quelque chose.
De pas sauter sa coche.
De pas sauter de coche quand que t'entends des choses qui viennent te chercher, qui t'irritent. Faut pas te sauter de coche. Faut que tu sois capable d'endurer. Fait que, au bout de la maîtrise de soi-même, d'être capable de se contrôler, tu rajoutes la patience qui fait que tu vas devenir endurant, capable de toffer, capable de, puis pas juste sur le moment-là, longtemps. Le fait d'être patient jusqu'à la fin, parce que notre patience, en fin de compte, c'est combien de temps faut qu'on soit patient?
Jusqu'au retour du Seigneur.
On est en patience. Juste au niveau de la patience, on attend son retour. Donc, on est patient. Mais est-ce qu'on est aussi dans le sens d'endurant jusqu'à son retour? On va passer à travers tout ce qui va nous arriver. On va garder la foi. On va rester ferme. On va persévérer jusqu'à la foi. Si une personne est capable d'être patiente jusqu'à la fin, ça va nous permettre de porter du fruit. J'ai déjà dit dans les études antérieures qu'un cultivateur, quand il sème ses légumes dans le champ, il a préparé le terrain, il a semé ses légumes, puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. T'as rien de suite. Faut-tu être capable d'être patient, d'attendre que ça pousse? Mais il y a des affaires dans notre vie, faut être capable d'attendre. Il y a des miracles, des fois c'est instantané. Dieu nous exauce une prière instantanée. Il y en a d'autres, des prières, ça va être au bout de 5 ans que tu peux être exaucé. J'ai prié pour mon frère pour qu'il vienne au salut, puis ma mère. Ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans avant qu'il vienne. Faut-tu que tu sois patient? De prier, de prier, de prier. Tu continues à prier. Tu fais confiance à Dieu. Tu pries. Ben, m'en est tous. Dieu te le donne. Pourquoi? Parce que tu as été patient dans ta prière. Tu as été persévérant dans ta prière. C'est des synonymes. Mais pour porter du fruit, il faut que tu sois capable d'être patient. Dans Luc 21, le verset 16, au niveau de la patience, là, de demeurer en Jésus, puis de continuer à porter du fruit malgré tout ce qu'on peut subir. Regardez bien ce passage-là. Ça nous parle de Jésus qui nous parle qu'on va être livré même par vos parents. Il y a des chrétiens, dans les persécutions qu'ils vont avoir à traverser, ils vont se faire être livrés aux autorités par leurs parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ça, c'est tu te fais trahir, là. Ta famille te trahit. Il y en a des chrétiens qui vont se faire trahir par leurs amis, par leurs parents, leurs enfants, tout ça. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Jésus qui a dit ça. Il y a des chrétiens qui vont se faire mettre à mort parce qu'ils vont s'avoir fait trahir par leurs parents ou amis. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Là, on voit comment est-ce que la vie chrétienne, Jésus a jamais dit que ça serait un party de plaisir continuel pour tout le monde. Il y en a que c'est très difficile d'être chrétien. Ça prend de la patience. Ça prend de l'endurance. Ça prend de la persévérance. Que malgré que même les personnes, tes personnes les plus chères, ta famille, tes amis, te trahissent, puis ils te livrent aux autorités parce qu'il y a une persécution contre des chrétiens, puis là, tu te fais haïr par tout le monde parce que t'es chrétien, parce que tu portes le nom de Jésus dans ta vie. Mais c'est dur. Là, si tu veux être capable de garder ton fruit dans ta vie, ça prend une endurance incroyable. Mais Jésus nous donne quand même des encouragements. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Puis le mot persévérance, c'est le mot patience qui va là aussi. C'est le même mot grec. Par votre patience, vous sauverez vos âmes. Ça veut dire que malgré tous les problèmes, les choses difficiles que tes proches peuvent te faire subir, faut que tu sois capable de persévérer, d'être patient, pour passer à travers, endurer, puis de garder ton contact avec Jésus, ta communion avec Jésus. Parce qu'on sait que c'est en gardant le contact avec Jésus qu'on va porter du fruit. Fait qu'on a besoin de persévérance pour porter du fruit. Parce qu'il y en a des gens, pour des petites chicanes de... Mettons, ils ont entendu dans l'église, mettons, 2-3 petites critiques venant de d'autres personnes. Puis ils ont dit, c'est ça des chrétiens, moi je lâche tout. Ils ont lâché le Seigneur parce qu'ils ont entendu 2-3 petites critiques. Était où leur persévérance? Il n'y en avait pas. Ils ont abandonné. Fait que malgré les choses qu'on peut voir, qu'on n'est pas content, on peut voir des choses dans l'Église, puis on n'est pas content. Les choses qu'on peut entendre, puis on n'est pas content. Mais il faut être capable de persévérer pareil, puis de garder le contact avec le Seigneur. De ne pas succomber dans les épreuves, parce que c'est trop difficile. Le fait d'être patient nous permettra de porter du fruit sans arrêt. Parce que si on perd patience, on se décourage, on arrête de prier, on arrête de lire la parole, on arrête de garder le contact avec le Seigneur, ou on arrête de sanctifier puis de vouloir servir le Seigneur, mais notre vie tombe à zéro. Fait que le fait d'être persévérant, ça va nous faire porter du fruit constamment. Il n'y aura pas d'interruption. Dans Luc 8, 15, ça nous dit, pour parler de cela, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Pour qu'on décide d'accepter la parole de Dieu, de l'écouter, puis de vouloir la mettre en pratique, puis de la retenir, c'est ça, la retenir. Pour qu'on décide de la retenir, il faut qu'on ait compris sa valeur. Le savez-vous que c'est important de garder la parole de Dieu, puis de la mettre en pratique? Savez-vous que c'est important de garder la parole de Dieu, de la retenir, puis de la mettre en pratique? Savez-vous que si on dit « Moi, j'ai plus le temps de servir le Seigneur, il y a trop de problèmes, c'est trop compliqué, trop d'attaques du diable, trop de combats, trop de souffrances à passer, tu décides de tout lâcher. »
Tu perds tout.
C'est à cause qu'on va décider de tout garder avec persévérance. Là, on va porter du fruit avec persévérance. C'est de l'endurance, la persévérance, d'être patient. Malgré les problèmes, on continue à avancer. On se laisse pas abattre, on se laisse pas décourager, on laisse pas notre âme tomber dans le découragement. On se laisse pas ébranler parce qu'on va vivre. On persévère, on lâche pas. On va suivre le Seigneur jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Quand j'ai accepté le Seigneur, il y a une chose que j'ai dit au Seigneur, que je me suis dit. Moi, il dit, même si je verrais tout le monde abandonner le Seigneur, moi, faut que je continue jusqu'à la fin. Faut que vous ayez ça comme vision. Même si vous verriez votre femme ou votre mari ou vos enfants ou vos parents ou vos amis abandonner le Seigneur, il faut que vous vous dites en vous-même, même si tout le monde abandonne, moi, je veux suivre jusqu'à la fin de ma vie. Vous savez pourquoi c'est important de suivre le Seigneur? Parce que c'est le salut de notre âme.
Amen.
On veut y aller dans le ciel, on veut y aller dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est le seul moyen pour y arriver. Gardons la foi. Laissons-nous pas ébranler par les épreuves, par les problèmes. Soyons persévérants. C'est de la résilience. Faut être capable d'avoir de la résilience. La résilience, c'est c'est de la résistance à l'impact. Tu manges un coup, le coup qui s'en vient avec un élan, ça te frappe. Il y a une force de frappe qui est éliminée parce que t'es capable d'absorber le coup. Mais puis le coup, il est bien moins fort pour toi parce que t'as une résilience, t'as une capacité d'endurance. Mais il faut développer ça dans la vie chrétienne, d'être capable d'endurer les choses qui nous arrivent. Il y en a qui parlent, mettons, t'entends des choses qui se disent contre toi, il faut que tu sois capable d'endurer ça, puis de ça, faut pas que tu tombes dans, comme, te laisser aller, puis d'embarquer là-dedans, puis répondre à la manière humaine, voyez-vous? Le fait d'être patient jusqu'à la fin nous permettra d'obtenir les résultats voulus par Dieu. Parce que Dieu veut nous rendre à l'épreuve de tout. Il veut le faire, mais il est obligé de nous le dire. Sois patient, persévère, lâche pas, fortifie-toi, prends courage. C'est ça qu'il dit dans Josué. Je l'ai dit dans mon verset quand j'ai présidé dimanche passé. Le verset que Dieu a dit, fortifie-toi. Qu'est-ce que ça veut dire, fortifie-toi? Deviens fort! Deviens fort! Va chercher tout ce que tu as besoin pour devenir encore plus fort. Sois confiant, plein d'assurance. On a besoin de ça, ça va nous permettre d'arriver avec le résultat voulu par Dieu. Alors regardez bien dans Hébreux 10, 36, ça nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance. » C'est patience, là. C'est le même mot grec. J'ai tout pris les versets qui ont le même mot grec. Vous avez tout besoin de patience, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On a besoin de persévérer Parce qu'après l'avoir fait, ce que Dieu nous demande, on va obtenir ce qu'il nous a promis. Ça veut dire que s'il y a des promesses pour notre vie présente, on a besoin de persévérer, puis on va avoir les promesses présentes, et on va persévérer pour avoir les promesses à venir. Il faut se rendre jusqu'au bout. Fait que Dieu veut le faire, il va le faire, il va nous aider, mais il est obligé de nous le dire, de persévérer, de ne pas lâcher, d'être patient, puis parce qu'un jour, on va passer à travers, puis on va l'avoir, notre exaucement. Sont pris pour nos enfants. Prions jusqu'à quand? Jusqu'à temps que ça soit exaucé. C'est ça qui est le but. Soyons.
Seigneur, parce que même si c'est exaucé, il faut quand même se tenir debout pour eux autres.
Oui. On est des exemples pour nos enfants. Le fait d'être patient, persévérant, ça nous permettra de devenir parfait et accompli. On l'a déjà dit que le but de Dieu, c'est de nous amener à ce qu'on ressemble à Jésus. On doit tous devenir comme ça, qu'on devienne comme Jésus. Si le jour où on va l'avoir atteint, c'est ce que la Bible appelle, c'est la maturité. Tu deviens homme de Dieu. Tu deviens un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Tu as une maturité spirituelle que Dieu te donne avec ta persévérance, avec le travail qu'il fait en toi, puis qu'est-ce que toi tu fais en acceptant que Dieu le fasse. Parce que Dieu veut nous donner cette patience-là, mais il faut vouloir l'obtenir, il faut la demander, puis là il va nous arriver toutes sortes de situations pour que ça puisse se forger en nous, la patience. Mais on a besoin d'avoir de la patience pour arriver, ou de la persévérance, pour arriver à devenir, à être comme Jésus. Dans Jacques 1,4, qu'on voit ce verset-là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est le but à atteindre, ça. D'être parfait et accompli sans faillir en rien. Ça veut dire quoi, sans faillir en rien?
On reste fort.
On reste fort. Sans faillir en rien, ça veut dire que peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, on tombe plus. Ben là, il faut que tu aies une patience, une persévérance, continuellement, puis là, ça va accomplir un œuvre en toi, cette persévérance-là. Tu vas devenir fort dans le Seigneur. Plus que tu vas résister, plus que tu deviens fort, Dieu va t'aider, mais tu as un effort à faire. Plus que tu vas résister, plus tu vas devenir fort, plus que tu vas devenir fort, tu vas devenir inébranlable. Tu tomberas plus dans tes péchés. Ça va devenir comme une nature en toi. Tu vas être capable de dire, non, j'ai pas besoin de ça. Comment peut-on produire de la patience en nous? C'est sûr qu'on peut prier Dieu, que Dieu nous en donne. Puis on va comprendre que Dieu, c'est quoi que Dieu va servir pour que la patience soit formée en nous? Premièrement, par la parole de Dieu. Comment peut-on produire de la patience? Mais par la parole de Dieu, entre parenthèses, ses promesses. Dans Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance dans les écrits de la parole de Dieu a été pour notre instruction. Fait que tout ce qu'on voit dans la Bible, ça sert pour nous instruire. Afin que par la patience, la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça veut dire que Dieu nous a déjà donné plein de promesses dans la Bible, puis par ces promesses-là qu'on va lire, ça va nous donner de la capacité d'être patient. Quand je vois une promesse dans la Bible, puis je vois qu'il y a du monde qui se sont appuyés sur cette promesse-là, puis ont été exaucés, ça nous fortifie, ça nous dit, « Hey, Dieu exauce les promesses! » Fait que là, tu t'appuies toi aussi sur ces promesses-là. Faut que tu apprennes à t'appuyer sur les promesses. pour savoir c'est quoi une promesse, c'est si on voit une phrase dans le Nouveau Testament qui dit, mettons, deux ou trois qui sont assemblés en mon, dans mon nom, deux qui s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père. Fait que si tu pars avec ce verset-là, tu dis ça, c'est une promesse. Si deux personnes s'accordent pour demander une chose, elle sera accordée. Ça veut dire que c'est une prière exaucée. Ça veut dire que là, tu commences dans ta vie consciemment. À cause que tu sais ce verset-là, tu fais exprès pour aller voir quelqu'un et dis, veux-tu prier avec moi et t'accorder avec moi pour demander telle affaire? Là, tu t'arrêtes, puis à cause du verset, tu t'appuies sur le verset, puis là, tu dis avec la personne, on prie, on s'accorde, puis là, on demande. Puis c'est sûr que Dieu va le faire. Fait que si on apprend à mettre en pratique les promesses comme ça, ça va nous fortifier, puis on va être capable de passer à travers patiemment avec une force, une endurance, plus facilement parce qu'on va en avoir vu plusieurs exaucements dans notre vie. Déjà, si vous avez écouté le moindrement le dimanche, quand que on demande, y a-t-il des témoignages, puis il y en a qui racontent qu'ils ont été exaucés, puis il y en a qui ont été... Plusieurs fois, là, ça a été dit, ils ont été exaucés dans leurs prières, des réponses aux prières. Ça vous donne-tu un petit peu un encouragement de voir comment est-ce que Dieu exauce les prières, puis comment est-ce qu'il peut exaucer les autres prières qu'on demande? Bon, mais si on part avec ces exaucements de promesses-là qui ont été faites, puis ils ont eu leurs exaucements, mais ça nous donne du courage, de l'endurance, à être capable de passer à travers. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. La patience puis la consolation que donnent les Écritures, avec ça, mais on va être capable de posséder l'espérance. On a allé chercher cette persévérance-là que les Écritures vont nous donner. Fait que comment peut-on produire la patience? Mais la Bible nous a été écrite pour nous en produire de la patience. Une autre manière pour voir comment produire de la patience, c'est par l'exemple des autres chrétiens autour de nous. Dans 2 Corinthiens 1, 6, Paul, il était beaucoup affligé parce qu'il était battu de verge, il était mis en fouetté, puis il était mis en prison. Puis il a été longtemps en prison, mais toutes ces souffrances qu'il a vécues, c'était comme, là, il dit qu'est-ce que ça a donné. Paul, il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Voyez-vous, ce que Paul et les autres apôtres ont vécu comme souffrance, mais les chrétiens, quand ils voyaient ce que Paul passait à travers, ça leur donnait comme une endurance, une patience, à être prêts, eux autres aussi, à subir les mêmes souffrances que Paul subissait. Fait que, en considérant ce que les autres passent comme souffrance, ça va nous donner du courage à dire, si eux autres l'ont passé, moi aussi je peux le passer. S'il y a des chrétiens dans la Bible, on voit des exemples de d'autres chrétiens dans la Bible qui ont vécu des souffrances, puis qui ont passé à travers. Il y a un coup, Paul, il dit, il était persécuté, là, puis il est arrivé un bout qui dit, il en avait même perdu l'espérance d'en sortir vivant. Cette fois-là, il était désespéré, puis Dieu l'a délivré quand même de toutes ses détresses. Fait que, en racontant ces choses-là, ça nous donne aussi le courage à se dire, mais grâce à Dieu, Paul il a passé à travers des choses bien plus pires que moi, ça me donne du courage, moi aussi je vais aller de l'avant, je vais persévérer, ça me donne du courage, ça me donne de l'endurance, je vais passer à travers moi aussi. Un autre exemple qui peut nous donner, nous aider à avoir de la patience, c'est par l'exemple des prophètes puis des premiers chrétiens. On va voir dans quel sens que c'est dit dans Jacques 5, 9. 9 à 11. Ça dit, écoutez bien celle-là, comment que ça commence. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères. Quand est-ce qu'on se plaint?
Quand on parle des autres.
Ouais, quand est-ce qu'on arrive qu'on se plaint? quand on subit des injustices, quand on entend des paroles qui nous ont blessés, quand on n'est pas content, quand on n'est pas d'accord. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on peut se plaindre. Peu importe la raison, ne vous plaignez pas les uns les autres. Que tu aies raison ou pas raison, ne vous plaignez pas, frère, afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que là, Jésus peut juger si on se plaint des autres puis qu'on fait de la méchanceté. Ça dit, voici le juge est à la porte. Là, il nous dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. C'est cette phrase-là qui est importante, là. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y en a ici qui ont lu l'Ancien Testament puis l'histoire des prophètes? Le prophète Ézéchiel, le prophète Daniel. Mettons Daniel, quelles sont ses souffrances qu'il a subies? Bien, il a subi d'être déporté dans un pays où ce que les gens dans l'autre pays ne parlaient pas la même langue. Il n'était plus dans ses affaires. Il était là comme un esclave. Puis il était, lui, dans son cas, vu qu'il avait une intelligence supérieure aux autres, il était emmené à cour du roi. Il a fallu qu'il serve le roi qui les a déportés de son pays. Il a fallu qu'il serve ce roi méchant-là qui a tué peut-être des gens de sa famille, de ses amis, puis qu'il soit à son service, puis qu'il l'aide, ce roi-là. Puis en plus, il a fallu qu'il subisse des injustices quand il est en train de servir. Il y en a qui ont stoulé au roi que Daniel priait, puis que là, ça a fait que Daniel était jeté dans la fosse au lion. Toutes sortes d'affaires incroyables qui s'est passées. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé dans le nom du Seigneur. Fait, tu commences à regarder l'histoire des prophètes dans l'Ancien Testament, puis tu vas voir, il y en a comme qui ont été jetés dans un puits. Il a calé dans la boîte dans le fond du puits. Puis il restait là, puis il y a des journées qu'il ne mangeait pas. Il y a des journées qu'il mangeait avec un morceau de pain. Puis il a été là longtemps, je me rappelle plus combien de temps qu'il était là. Mais à cause qu'il est un prophète de Dieu, il y en a d'autres qui se sont fait persécuter, qui se sont fait tuer. Les prophètes se sont fait tuer. Il y a des prophètes qui se faisaient haïr de tout le peuple et du roi parce qu'ils prophétisaient les choses de la part de Dieu. Mais ça nous dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Là, dans ce verset-là, on continue en disant, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Il dit, « Vous avez entendu parler de la patience de Job? » N'avez-vous entendu parler de la patience de Job? Qu'est-ce que Job a perdu, lui?
Tout.
Il a perdu toute sa famille qui sont morts dans la même journée. Il s'est fait voler tous ses troupeaux dans la même journée. Puis en plus de ça, il a perdu la santé au point qu'il était couvert d'ulcères à travers tout son corps. Il n'y a même pas un petit endroit qui n'était pas blessé. Puis là, ça y démangeait. Il aurait aimé de se gratter, puis il pouvait pas. Puis il souffrait dans son corps. Toutes ces choses qui sont arrivées, c'est une attaque que le diable a faite dans sa vie. Il a patienté, il a tout perdu. Tous ses biens, sa richesse, sa famille puis sa santé.
Sa femme. Sa femme a dit, renie Dieu, il est mort.
Ouais, même sa femme s'y mettait comme qu'on pourrait en plus amplifier sa douleur. Puis il a persévéré dans la foi en son Dieu, puis il ne voulait pas prononcer une parole injuste. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom soit béni éternellement. Il a continué à bénir Dieu malgré toutes les souffrances qu'il a eues. Puis là, ça nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job? Sa persévérance, sa patience, c'est sa persévérance, son endurance de subir tout ce qu'il a subi. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin de sa vie? La Bible nous dit qu'il y a eu en double tout ce qu'il avait eu. Tout ce qu'il a perdu, Il a eu le double de ses troupeaux, le double d'enfants, puis il a été béni au bout dans tous les domaines. Fait que là, ça nous dit considérer. Il y avait encore la même femme. Mais c'est pas grave.
Il a eu double, il n'est pas chanceux, il a eu deux.
Non, non, il y avait la même femme. Il n'a pas eu deux femmes.
Il reste encore pris quand même.
Là, ça nous dit de prendre comme exemple les modèles de souffrance et de patience que les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. Faut regarder ce qui a été écrit, puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont passé à travers pour le Seigneur, puis nous, faut faire la même chose. Un autre moyen que Dieu sert pour nous donner de la patience ou de la persévérance ou de l'endurance, c'est par nos épreuves. Dans Jacques 1, le verset 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Combien est-ce qu'il y en a ici qui regardent les épreuves comme un sujet de joie complète? Combien est-ce qu'il y en a qui sont heureux de souffrir dans des épreuves? C'est ça que ça dit, là. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez passer. Que vous avez.
C'est pour renforcer notre foi.
C'est écrit le verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Ça te renforcit dans le Seigneur. Ça produit de l'endurance, tes épreuves. Pourquoi que ça produit de l'endurance, une épreuve? Mettons, tu tombes malade. Tu as à vivre une maladie pendant X temps. Tu endures, tu as mal, tu souffres par ta maladie. Tu n'as peut-être pas de pilule pour soigner ta maladie ou te soulager. Tu endures. Là, il nous dit dans ce passage-là, réjouis-toi pleinement. Alors, regarde ça comme un sujet de joie complète, la maladie que tu es en train de passer. Parce que c'est une épreuve à cause de ta foi. Puis ça va te produire en toi de l'endurance. Tu vas être capable après ça, si tu prends ça sur le bon bord, une épreuve, tu vas être capable d'en passer encore plus. Le contraire de ça, si tu te mets à critiquer, à chialer, à murmurer, à te plaindre, à te lamenter parce que tu souffres, parce que tu as mal, ça te renforcit pas. Puis tu vas avoir une deuxième épreuve, tu vas être encore en train de faire la même affaire. Tu te renforcis jamais, tu n'auras jamais la force de passer à travers tes épreuves si tu te lamentes tout le temps, puis tu critiques, puis tu chiales, puis tu te plains. Puis faut apprendre à regarder les épreuves comme une chose positive. C'est Dieu qui a permis notre épreuve parce qu'il veut nous renforcer. Tu as des problèmes financiers, mais Dieu a permis que tu aies des problèmes financiers pour que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu. Dieu veut augmenter ton endurance. Tu as des problèmes de santé, Dieu sert de ça pour augmenter ton endurance. Tu as des problèmes avec ta famille, des chicanes, etc. Dieu sert de ça pour augmenter ton endurance. Si on est capable d'arriver à un point d'endurer n'importe quel problème qui nous arrive, si on est capable d'arriver à un point d'être capable d'endurer n'importe quel problème puis regarder ça comme une chose positive, on pourra vivre les pires persécutions dans le monde, puis on va passer à travers avec foi. Si on est capable de regarder nos épreuves de manière positive, on va être capable de passer à travers n'importe quelle épreuve dans notre vie, puis on va garder la foi.
Amen.
Écoutez, c'est important. Si on est capable de passer à travers nos épreuves de manière positive, de trouver que notre épreuve, c'est un enrichissement. Si je suis en train de me renforcer, si tu es capable de passer à travers les épreuves de cette façon-là, tu vas être capable de passer à travers n'importe quelle autre épreuve par la suite. Parce que tu vas être renforcé par tes épreuves. Si on n'est pas capable de passer ça, imaginez-vous que demain matin, il y a les musulmans rentrent au pouvoir et ils disent qu'ils ont plus le droit d'être chrétiens, puis ils vous forcent à renier Jésus. Allez-vous être capable de passer à travers? faudra qu'on soit capable de garder la foi et de dire, écoute-moi, c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité, il n'y a pas d'autre. Être capable de garder notre foi jusqu'à la fin. Mais si on n'est pas capable d'endurer un mal de tête ou un mal de pied ou un mal de ventre, comment est-ce qu'on va être capable d'endurer que l'autre nous frappe puis il veut nous faire renier Jésus? Mais c'est le fait d'être capable d'accepter tout de suite les souffrances puis de voir ça comme un moyen de se renforcer. On va être capable de passer à travers après ça avec la force du Seigneur. On va être capable de passer à travers n'importe quelle persécution. Dans Romains 5:3, j'achève. C'est encore dans la même pensée, 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit l'endurance, la persévérance, puis la victoire dans l'épreuve. Puis la victoire, l'espérance. Il dit, on se glorifie de nos afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance puis de l'endurance. Nos afflictions produisent de l'endurance puis de la persévérance. On veut-tu être fort? Mais regardons nos problèmes comme des moyens de se renforcer. Le dernier verset, il y a une belle promesse pour ceux qui sont persévérants dans le Seigneur. Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, parce que tu as gardé la parole de l'endurance, tu as gardé la parole qui te permet de devenir endurant, persévérant, patient, parce que tu l'as gardé, tu ne l'as pas relâché et tu dis t'en veux plus, tu la gardes, tu veux garder la persévérance dans la parole. Fait que tu as gardé la parole de la persévérance en Jésus. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il nous dit, parce que tu vas aller chercher une endurance à garder la parole de restant Jésus, mais Jésus va te garder lorsque la grande épreuve va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Si la personne dit, moi je lâche tout, mais il ne sera pas gardé par le Seigneur. Si tu gardes la persévérance dans la parole puis la foi en Jésus, mais Jésus dit, il va te garder, il va te protéger, il va t'aider à passer à travers, même si c'est des périodes extrêmement difficiles. Comprenez-vous l'importance de l'endurance? Fait qu'est-ce qu'on doit ajouter à notre foi? La vertu, faut ajouter à notre foi de vouloir toujours faire le bien. Faut ajouter la connaissance de la parole de Dieu, parce que dans la connaissance de la parole de Dieu, on sait quoi faire de bien. On doit ajouter de se maîtriser, d'avoir la maîtrise sur nous-mêmes. Puis on doit ajouter d'être endurant, d'être patient, d'être persévérant, de continuer notre course jusqu'à la fin. Amen. Amen. Puis ça, c'est, on a vu les quatre premiers points, il y en a trois autres dans la suite. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on vient te remercier pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous demande d'être persévérants, d'avoir de l'endurance. Viens produire ces choses en nous, Seigneur. Nous voulons persévérer. Nous voulons même apprendre à regarder nos afflictions puis nos problèmes comme un sujet de joie complète. Qu'on puisse avoir une joie de regarder que nos problèmes nous aident à devenir de plus en plus forts, de plus en plus endurants. Seigneur, garde-nous dans cette pensée-là afin qu'on tombe pas dans l'autre extrémité de critiquer, de chialer puis de murmurer, mais qu'on confesse notre foi, puis qu'on persévère à confesser notre foi, que tu tiens notre vie entre tes mains, puis toute chose concourt à notre bien. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.